Europe 1. Jusqu'à 10h, vous êtes avec Patrick Cohen pour cet arrivé cette semaine sur Europe 1.
Le banquet de Platon n'est pas seulement un classique de la philosophie, ce qui peut faire fuir, c'est un grand texte sur l'amour, le désir, la beauté, la force et l'érosion des sentiments. C'est un dialogue, ou plutôt un échange de discours vieux de 2400 ans, mais qui prend un grand coup de jeune et de fantaisie sous le crayon d'une dessinatrice de Charlie. Bonjour Coco.
Bonjour Patrick.
Et d'un professeur de philosophie. Bonjour Raphaël Antoven.
Bonjour Patrick Cohen.
Je vous ai souvent entendu citer Platon ce micro, Raphaël. Pas forcément le banquet d'ailleurs. Non. Qu'est-ce qu'il a de moderne ce texte? En quoi il nous parle?
Oh, c'est pas seulement moderne, c'est qu'il est éternel. Nous nous aimons de la même façon depuis toujours. Donc c'est le banquet met des mots et des mythes sur la façon la plus naïve, souvent, que nous avons d'aimer, ou sur la tentation de l'amour absolu. Donc c'est ça. Donc lire ça, c'est être lu par ça.
Coco, ça vous parlait le banquet de Platon avant de le recréer avec Raphaël?
Non, pas tellement. C'est pas un texte que j'avais lu. Je l'ai découvert avec Raphaël. On a travaillé dessus. Et bon, de toute façon, l'amour, c'est un thème, c'est vrai, intemporel, et voilà, je me suis amusée à...
Donc vous êtes initiée à ce, à ce banquet.
Oui. Ce qui est très amusant, c'est d'entendre Coco maintenant parler des personnages du banquet avec qui elle est devenue très familière.
Oui, parce qu'un dessinateur, il s'inspire généralement de ce qu'il a sous les yeux, or vous n'avez jamais croisé Socrate ou Aristophane.
Non, c'est vrai, j'ai pu trouver de la documentation qui m'ont aidée à les formuler par ma plume. Après, j'ai laissé libre cours à mon interprétation personnelle de leur caractère, de comment ils étaient, un Agathon un peu fou, un peu dynamique, un Alcibiade bourré mais complètement éperdu pour son Socrate. Donc voilà, ça on peut le faire sentir sous le trait.
Mais vous avez croisé Raphaël Antoven, que vous avez affublé d'une toge tout au long des pages de cette bande dessinée.
Voilà, en fait, vous l'avez
dit. Je veux dire que c'est une idée de Coco.
Oui, c'est mon idée. Non, mais vous l'avez dit, c'est un texte qui a déjà 2400 balais derrière lui. Il fallait quelque part dépoussiérer un peu ce texte qui peut faire peur. C'est un texte de philosophie. J'ai la chance d'avoir travaillé avec un des philosophes actuels contemporains. Il a rendu le texte accessible et je voulais le représenter un peu comme quelqu'un, un petit fantôme qui voudrait apporter un complément d'information ou décortiquer une scène, décortiquer le hoquet d'Aristophane ou parler un peu plus du tête-à-tête, la maïotique. En fait, il apporte des compléments d'information qui ne sont pas dans le texte initial, mais qui nous renseignent davantage.
C'est donc le récit d'un banquet où Socrate est invité, question posée à l'Assemblée. Qu'est-ce que l'amour? Ça commence par l'éloge de l'amour par Phèdre, le jeune Phèdre que vous avez dessiné avec des dents en avant.
Un peu d'acné aussi.
Un peu Rosanna Arquette.
Ouais. Il n'y a ni naissance, ni honneur, ni richesse, rien enfin qui soit capable comme l'amour d'inspirer à l'homme ce qu'il faut pour se bien conduire, je veux dire la honte du mal et l'émulation du bien. Et puis un peu plus loin, seul l'amour donne la force de se sacrifier. Il est naïf, Phèdre, Raphaël Antoven?
Il est naïf, il commet surtout l'erreur de croire que quand on fait un discours sur l'amour, il faut faire le plus bel éloge de l'amour. Or, c'est la grande leçon de Socrate, qui arrivera un peu plus tard dans l'ordre des discours, qui est de dire, mais enfin, quand on parle de quelque chose, il faut dire de quoi on parle, il faut dire la vérité sur cette chose-là, et non ce qu'il y a de plus flatteur à en dire. Phèdre, Pausanias, Eryximaque, Agathon, un certain nombre de discoureurs, je mets Aristophane de côté, croient naïvement que pour bien parler de l'amour, il faut en dire du bien. Or, dit Socrate, non, il faut en dire la vérité. Et c'est tout le sens de son intervention après.
Vous préférez le mythe d'Aristophane, dont vous soulignez que c'est sans doute l'une des plus belles
parties du
banquet de Platon.
C'est sublime. D'abord, c'est très élégant de la part de Platon quand on sait le rôle actif qu'Aristophane a joué dans la condamnation à mort de Socrate, même s'il le punit en lui donnant un hoquet au moment où il doit prendre la parole la première fois, ce qui est très important parce que ça veut dire que le corps empêche l'esprit de parler. Mais le discours qu'il lui fait tenir est ensuite un discours absolument majeur sur... l'idée qu'au départ nous étions des boules avec quatre jambes, quatre bras et les organes de la génération sur l'extérieur et deux têtes, et que Zeus nous a coupés en deux pour nous punir de notre orgueil, et Apollon nous a fabriqué le nombril. Zeus a mis sur le devant les organes de la génération, et c'est comme ça que faute de fusionner avec l'autre, on a pu se donner l'illusion de la fusion en s'accouplant de temps en temps. C'est ce que raconte Aristophane. Je trouve la façon qu'il a eu de mettre un mythe sur une tentation irrésistible.
Et vous avez dessiné ça sous forme d'extase, Coco, hein ?
Oui, graphiquement, c'est très intéressant. Les hommes boules, déjà, il faut les créer. Ils sont bien décrits. Et puis ensuite, il y a leur façon de se mouvoir. Il y a toute l'histoire avec les dieux. Enfin, c'est très riche, c'est foisonnant, un peu à l'image de notre Raphaël, d'ailleurs. Hein. Il est foisonnant. C'est agréable de travailler avec quelqu'un comme ça qui sans arrêt donne du complément, donne du grain à moudre au dessinateur que la dessinatrice que je suis, c'était bien aussi de l'avoir sous la main.
On est dans la Grèce antique et donc il est aussi question de liaison entre deux hommes, oui. La liaison notamment entre Socrate et Alcibiade.
Oui, 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 mais il faut bien préciser que il faut pas poser sur ce texte le filtre de notre époque aujourd'hui et voir dans ce texte par exemple une défense et illustration de l'homosexualité. En fait, ce n'était pas un problème pour Platon. La seule différence qu'il fait, en somme, entre l'homosexualité et l'hétérosexualité, c'est que l'hétérosexualité a pour effet de produire des enfants, alors que l'homosexualité, la GPA n'existant pas encore, nous prive de cette possibilité, et donc donne aux hommes la possibilité de faire des choses beaucoup plus fécondes que des enfants. Nous avons mieux à faire aux yeux de Platon que de perpétuer l'espèce. Nous avons à produire de belles lois, de beaux discours, enfantés dans la beauté. Et c'est ce qu'en un sens, l'homosexualité, principalement entre hommes, je dois dire, permet dans le banquet.
Il y a beaucoup de questions, je le disais, liées à l'amour et au désir. L'une de celles que vous posez au début de ce récit dessiné, existe-t-il au monde, c'est une question magnifique, existe-t-il au monde une seule chose assez aimable pour qu'on la désire encore alors qu'on la possède déjà? C'est une question sur la perpétuation de l'amour et l'érosion des sentiments.
Comment faire pour ne pas... Vous savez, Schopenhauer dit que la vie oscille entre la souffrance et l'ennui, entre la souffrance du manque et l'ennui de la possession. Comment faire pour vouloir ce qu'on possède déjà? Comment faire pour désirer ce qu'on a? Et c'est une question qui traverse toute l'histoire de la pensée et, paradoxalement, qui est une question que se posent les plus grands métaphysiciens comme les plus grands matérialistes. Comment on fait pour désirer le truc qu'on possède? Et en fait, la capacité à aimer ce qu'on a déjà, c'est ce que les philosophes appellent le souverain bien. Et c'est l'enjeu de la description que Diotime, prêtresse de l'amour, fait de l'amour et de la naissance de Eros dans le banquet.
C'est très stimulant, on prend beaucoup de plaisir à vous lire. Malheureusement, dans l'actualité, il est moins question d'amour que de haine. Ça ne vous a pas échappé, Raphaël Antoven, j'avais une question philo pour vous, enfin philo-politique. Peut-on combattre la haine aux côtés de porteurs de haine ?
Je crois que c'est de très mauvaises méthodes. Qu'il y ait une... Peut-être faites-vous référence à la manifestation qui aura lieu contre l'islamophobie dimanche prochain, à l'heure où nous discutons, qui est une manifestation où il y aura des gens absolument infréquentables et moyenâgeux et médiévaux. Je trouve que défiler à côté de ces gens-là est une erreur stratégique, d'autant que c'est un sujet majeur. Il existe en France un tenace, antique racisme anti-arabe qui est une infamie et qu'il faut combattre de toutes ses forces. Il existe aussi en France des escrocs qui essaient d'indexer sur ce racisme toute critique de la religion musulmane. Et cette escroquerie-là, qui neutralise tout discours critique en République sur la religion, est une escroquerie qu'il faut combattre. Or, le casting de la manif de dimanche a pour effet d'ancrer cette escroquerie dans les consciences. Donc, je pense que c'est une erreur, oui. En tout cas, j'irai pas. Mais je n'étais pas invité non plus.
Escroquerie, vous avez repris ce terme qui était celui
de Charb. Absolument. C'est pas l'islamophobie qui est une escroquerie, c'est l'utilisation qui en est faite pour neutraliser un discours qui est un discours de critique à l'endroit des religions.
Les escrocs de l'islamophobie, et je rappelle que l'un des initiateurs de ce défilé a traité récemment ce Charlie de pouilleux en espérant que ce journal cessera d'être.
Et que ses auteurs cessent d'être. C'est ça l'expression qu'il a employée, c'est Taha Abou Hafs.
Le banquet d'après Platon, chef-d'œuvre élevé par Coco et Raphaël Antoven au rang de bande dessinée, ça vient de paraître aux éditions Les Échappées. Merci d'être venu nous en parler.
Merci à vous.